France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
S'il ne sert à rien de parler de peinture, comme le disait Francis Bacon, immense artiste, né en 1909 à Dublin et mort en 1992 à Madrid, alors qu'est-ce qu'on peut en écrire? Votre book club du jour réunit deux livres qui ne résistent pas à la tentation de parler de peinture, ou bien font-ils ce qu'il reste quand on y renonce, à savoir parler des humains devant la peinture, avec la peinture, dans la peinture. Yannick Hemel a passé une nuit dans un musée avec les tableaux de Bacon. Quant à Franck Maubert, il relève le défi de raconter sa vie dans un très beau roman graphique. Ils sont nos deux invités du jour. Vers 15h50, comme chaque mercredi, on parle des livres à destination des plus jeunes. Aujourd'hui, Mathilde Wagman évoque le nouvel opus d'Adrien Albert. Et en fin d'émission, vous le savez, notre jeu à nous, c'est de trouver de la musique partout où il y en a dans les livres. C'est le grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Yannick Hemel.
Bonjour.
Votre livre Blue Bacon apparaît dans la collection Une nuit au musée aux éditions Stock. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir.
Merci.
Bonjour Franck Maubert.
Bonjour.
Le roman graphique que j'évoquais à l'instant, Bacon, éclat de vie, apparu aux éditions Segers. On salue de loin Stéphane Manel qui en signe les dessins. On espère qu'il nous écoute au chaud sous la couette.
Sous la couette.
Peut-être avec un grog et une bouillotte. Et merci d'être là, bienvenue à vous dans le Book Club. Ici, tout commence toujours par un questionnaire de lecture où on fait d'habitude le portrait de nos invités en tant que ce sont des lectrices et des lecteurs, avant toute chose. On ne va pas faire votre portrait en tant que lecteur, mais le portrait de Francis Bacon. J'ai ouvert devant moi la très belle double page du roman graphique où on voit comme ça des livres qui peut-être jonchaient le sol de l'atelier de Francis Bacon. Si vous deviez l'un et l'autre attraper la figure de Francis Bacon comme ça, en tant que c'est un lecteur, on commencerait par quoi, Yannick Hemel?
Moi j'ai l'impression que Bacon était un lecteur vorace. Et j'aurais envie, bon, il y a Bataille, les Ris, mais j'aurais envie de parler de sa lecture d'Eschyle, parce que toute sa vie, il a dit qu'il était poursuivi par les Érénies, donc les déesses de la vengeance, qui punissent le matricide, et en un sens, Bacon, sa peinture, c'est vraiment un crime contre l'espèce humaine, enfin. Et voilà, je sais pas, il y a une phrase, je crois, de Lautréamont qui dit que quand il lit Shakespeare, il a l'impression de déchiqueter la cervelle d'un jaguar. Et j'ai l'impression que Bacon, c'était vraiment un lecteur qui déchiquetait quelque chose de la littérature pour la découper en morceaux par amour, hein, et pour en faire de la peinture. Voilà, je crois que son rapport.
C'était un grand lecteur.
Mais il paraît, oui, parce que l'expo dans laquelle j'étais enfermé une nuit s'appelait En toutes lettres, donc c'était le rapport avec la littérature.
En 2019, au Centre Pompidou à Paris.
Voilà, et on a même publié, je crois, Franck, je ne sais pas si vous allez me contredire, mais il me semble qu'on a publié un catalogue de sa bibliothèque. Enfin, on sait tout ce qu'il avait chez lui, c'est monumental. Il avait des milliers de livres, enfin, il lisait énormément. En anglais, mais aussi en français.
Donc vous commencez par Eschyle, Yannick Hemel.
Oui, Eschyle.
Franck Maubert, vous iriez vers où pour commencer?
Alors c'est drôle parce que la première fois, moi j'ai eu la chance d'aller dans son atelier, et la première fois où je me suis rendu à Londres, dans son atelier à Rismuse, c'est les premières questions que je lui ai posées parce qu'en fait...
Qu'est-ce que vous lisez? Vous lui avez demandé?
C'est-à-dire... On était dans son, il m'a emmené dans, c'était tout petit l'ensemble, c'était un tout petit trois pièces, et, enfin deux pièces et un bout de cuisine, salle de bain, et dans sa chambre bureau, sur son bureau, sur le meuble, il y avait des piles de livres en fait, et donc c'est la première question que je lui ai posée, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous, alors il y avait un livre sur Proust en fait, un livre un peu illustré sur Proust, donc on a parlé de Proust, c'était un grand lecteur de Proust. Qui lisait et relisait, m'a-t-il dit, en français. Mm-hmm. Et il parlait assez bien le français, enfin même très bien, et avec beaucoup de subtilité, en fait. Après, il y avait beaucoup de livres aussi sur l'Égypte, des choses comme ça, des livres d'art, mais plutôt sur l'Égypte. Et après, on a parlé d'Euripide, etc. Bon, enfin, il disait beaucoup toutes les tragédies grecques. Et en fait, ce qui est formidable avec Bacon, c'est que sa peinture est issue de la littérature profondément.
Il pourrait le dire comme ça lui aussi?
Ah, il l'a dit, il me l'a dit, oui, bien sûr, oui, issu des vers qui disaient, notamment de Yeats aussi.
D'ailleurs, il y a un chapitre de votre roman graphique qui, je crois, dit les poètes m'aident à aller plus loin,
c'est
ou
ça,
en tout cas, ils me permettent d'entrer dans un autre territoire.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il partait d'une phrase qui déclenchait chez lui une image, en fait, qui était très souvent des images très violentes, et après il s'en éloignait, mais c'était le point de départ, en fait, de ses œuvres, en définitive. Et ce qui est troublant, c'est quand, en fait, c'était même pas étonnant qu'il suscite autant, entre guillemets, de littérature, bonne ou mauvaise, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, des livres, comme celui qui est merveilleux de le bleu bacon de Yannick est extraordinaire.
Et donc,
il y a un retour à la poésie, en définitive.
Ah oui, comme il naissait de la littérature, d'une certaine manière, c'est pas étonnant que la littérature ait tant voulu s'approcher de Bacon.
Oui, il y a une sorte de boucle, en fait. Il y a un retour à la littérature, parce qu'en fait, Bacon, c'est profondément, d'abord, poétique, d'une grande violence, mais poétique, et on y trouve beaucoup de choses, et on peut y retrouver, effectivement, des choses issues de la tragédie grecque ou autre. Voilà. Moi, il m'avait sorti ce vers magnifique qui était « L'odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux ». Après, j'ai cherché dans les traductions, parce qu'il me l'avait dit en français, et j'ai pas trouvé de cette traduction française. Je pense que c'était sa propre traduction.
De qui ? De quel vers ?
D'un vers d'Eschyle. D'un vers d'Eschyle et des Euménides. Et en fait, j'avais retrouvé une traduction notamment de Le Comte de Lille qui était « L'odeur du sang humain me sourit », mais c'est pas la même chose. Quoi. C'est « L'odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux », c'est très violent. Quoi. Et c'est hélas une illustration de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans certains conflits. Quoi. Voilà.
Yannick Enel, vous avez commencé par dire « Bon, il y a une évidence sur laquelle je ne m'attarde pas, Georges Bataille, Michel Léris, mais si on s'y attarde tout de même, puisqu'il se trouve que ce sont deux noms de grands auteurs qui reviennent aussi dans votre propre texte. Alors ce serait quoi Francis Bacon qui lit Georges Bataille et Francis Bacon qui lit Michel Léris ?
Alors d'une part, c'est Michel Léris en gros qui a été le premier commentateur de Bacon en France. Il a même traduit, et c'est merveilleux, les grands entretiens de Bacon avec David Sylvester, parce que Bacon, on l'oublie souvent, mais c'est quelqu'un qui s'est longuement exprimé sur son œuvre. Et qui a fabriqué sa propre légende, enfin, en intellectualisant sa peinture, tout en disant,
oui,
vous avez raison,
reviendra.
On peut rien dire sur la peinture. N'empêche qu'il en a énormément parlé. Et Bacon adorait. Il était très ami avec Léris. Il adorait en particulier Miroir de la tauromachie, qui est l'un des plus grands livres de Léris, qui considère l'art tauromachique comme un lieu de métaphysique, enfin où le sacrifice du taureau est également par reflux, si je puis dire, en miroir, celui de tout être humain qui se combat lui-même. Et puis le rapport avec Bataille, ça je l'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que Bacon, à la fin des années 20, a fait un séjour à Paris où il a appris à parler français. Il vivait à Chantilly, là où il pouvait voir le grand tableau de Poussin, le massacre des innocents. Et en fait, c'est là qu'il a acheté carrément la revue Documents de Bataille. Il était en plein surréalisme. Et je sais pas, il était dans la vie trépidante de Paris en 1927, où il y avait quand même Nadja de Breton qui paraissait. Il y avait la revue de Bataille. Et après, on a retrouvé dans sa bibliothèque l'expérience intérieure de Bataille, annotée. Et il était très travaillé, sans avoir jamais rencontré Bataille, il était très travaillé par des idées assez proches, à savoir celle de l'impossible, celle du non-savoir,
de la dépense.
De la dépense, de la mise en jeu de soi. Et cette nuit-là, quand j'ai eu cette chance d'être tout seul avec 42 tableaux de Bacon à Beaubourg, toute une nuit, j'avais apporté l'expérience intérieure de Bataille. Non pas que j'imaginais que j'aurais du temps pour lire, c'était pas ça, mais c'était au cas où, face à des tableaux, faire dialoguer justement les livres et la peinture. Et je crois que c'est, il y a que ça qu'on peut faire, au fond, aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de faire l'expérience physiquement de ce couloir extatique, de cette distance entre les tableaux et nous, entre la littérature, enfin le fait d'écrire, disons, et ce visible qui nous assaille, parce que, comme on le sait, Bacon, c'est vraiment un peintre qui produit des impacts en nous.
Oui, c'est vraiment quelque chose sur lequel, presque mot pour mot, vous vous rejoignez, Franck Maubert et Yannick Enel, c'est l'idée qu'on ne peut pas y échapper, qu'il y a quelque chose qui vous assaille, mais on va y venir. Je termine juste sur ce premier moment de Francis Bacon en tant que lecteur. Toujours avec cette double page de votre roman graphique sous les yeux, je continue à lire James Joyce, Macbeth, vous ne les avez pas évoqués. Maupassant, Bel Ami, Sylvia Plath, Collected Poems. Est-ce que vous voulez en évoquer un dernier, Franck Maubert? T.S. Eliot.
Alors attendez, le Guy de Maupassant, je n'en ai pas du tout parlé avec lui. Sylvia Plath, oui, on l'avait vaguement évoqué. Et
Joyce,
oui. Alors Joyce, moi, il m'avait dit que son livre préféré de Joyce, c'était pas du tout Ulysse, c'était Les gens de Dublin.
Dubliners, oui.
Voilà. Et c'est bon, après, j'en ai pas rentré dans le fond du sujet, mais c'est, je me souviens de ça.
En tout cas, tout à l'heure, vous disiez tous les deux que c'est une peinture qui vient de la littérature et peut-être la littérature revient à elle aussi, oui, avec force. Dans cette vie que vous déployez, Franck Maubert, et dont vous parlez un tout petit peu, Yannick Enel, la place de la lecture, il y en avait encore. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est tout entière, cette existence vouée à la peinture, vouée à la pensée, vouée aussi à l'amour, au sexe, à la vie, alors, à la fête, à l'alcool. Il pouvait encore lire au milieu de tout
alors
ça.
Alors oui, c'est
ça pourrait paraître paradoxal.
Non, parce que en fait, c'est tout ce que vous énumérez, mais en fait, c'est la vie d'un artiste que vous dites, en fait, c'est, tout ça se mêle et ne fait qu'un. Alors, le temps de peindre, en fait, n'est pas très long, en définitive, parce que c'est comme le temps d'écrire, on écrit tout le temps ou on peint tout le temps, mais sans peindre, sans être devant sa toile ou devant sa machine à écrire. En fait, moi, ce qu'il m'avait raconté, c'est qu'il peignait le matin très tôt, mais c'était pas tous les jours. Mmh. Quand il peignait, il ne buvait pas, et il était sobre. Et il peignait le matin très tôt, de 6h jusqu'à midi à peu près, et après, il sortait, et il vaquait, il errait, il partait à la dérive, comme il disait. Et il avait une autre vie, quoi. Mais il peignait pas tous les jours non plus.
Et il y avait une place pour les livres.
Il y avait une place pour les livres, parce que je pense qu'il lisait tous les jours, enfin, j'allais dire comme tout un chacun.
Mais non. C'est pour ça que je le précise, c'est toujours intéressant de se poser la question, quand est-ce que les gens ont le temps de lire?
Oui, mais enfin, oui, mais il avait le temps, enfin, c'est un artiste, donc il avait le temps de lire quand même. Oui, il lisait, parce qu'il vivait avec des livres, parce qu'il y en avait toujours dans son bureau-chambre, ou chambre-bureau, je ne sais pas, il y avait une petite cheminée en marbre, avec un dessus en marbre, il y avait dessus des livres, il y avait justement tout Proust sur le manteau de la cheminée. Et une photo de Georges d'ailleurs. Voilà.
Dont on parlera, voilà. Amant et mort. Et modèle est mort dans un moment extrêmement important dans la vie de Bacon. On continue de parler de ce peintre à travers vos deux livres, Franck Maubert et Yannick Enel, juste après ça.
Aller seul avant dans la forêt, je dors dans la lave, j'oublie souvent, je ne souris jamais. Aller seul avant dans la forêt, dehors je sens l'orage, la vie m'attend, je la rattraperai. La nuit je m'en vais, je mens quand je crie, j'écris sans regret la dernière nuit. Soudain tu remets de la dernière pluie.
Ah, ça me pose quand même. Pour se donner plaisir à soi-même et c'est tout. Si quelqu'un aime, et moi j'ai de la chance de gagner ma vie par quelque chose qui vraiment m'intéresse, c'est faire, et voilà, c'est tout. Je ne pense pas que ça va passer dans l'imagination des autres. Si ça passe dans mon imagination, si ça déclenche des choses pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne peux pas, c'est impossible à ce moment de travailler pour les autres. Et on a vraiment de la chance que les autres sont même intéressés dans ce qu'on fait.
Seul avant, dans la forêt, je dors dans la lave. J'oublie souvent, je ne souris jamais.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comment, face à des tableaux chargés d'abîmes, comme ceux de Bacon, on risque, en s'approchant, de se faire absorber ? Durant cette nuit, j'ai cherché à m'avancer au plus près de cette peinture, tout en m'en protégeant. Garder une distance d'expert serait absurde, se donner corps et âme est suicidaire, car les tableaux de Bacon possèdent une force ténébreuse, voire démoniaque, qui leur procure une aura de séduction ambiguë. Celui qui se laisse captiver accède à des lieux où la vérité se dénude, mais il en paie le prix. Toute vérité vous sacrifie. C'est un extrait de votre texte, Yannick Hennel, né d'une nuit passée au cœur de l'exposition que le Centre Pompidou consacrait en 2019 au peintre Francis Bacon à Paris, figure fascinante qui est au cœur du deuxième livre dont nous parlons aujourd'hui. Cette fois, c'est un projet biographique, Bacon, éclat de vie. Ça entreprend de raconter par le texte et par le dessin, Franck Maubert, l'existence longue, chahutée, intense et entièrement consacré à l'art et l'existence qui fut celle de Francis Bacon. On évoque avec vous ces deux textes plus en profondeur. On a écouté un tout petit peu la voix de Francis Bacon en français, dont vous disiez, Franck Maubert, qu'il le maîtrisait, qu'il le parlait si bien. On va l'écouter ici, traduit, toujours en 1975, dans les entretiens qu'il donnait à Michel Couturier, peut-être énoncer les termes du paradoxe apparent qui va nous occuper jusqu'à la fin de l'émission, à savoir qu'il serait impossible de parler de peinture.
Well, on New Year's night, I was probably rather drunk, and perhaps I talked more freely. But, of course, as you know, painting is a visual art that's really almost impossible to talk about.
Parler de peinture, eh bien, c'est impossible. La peinture est un art visuel dont on ne peut pas parler. Et paradoxalement, on en parle, on prend même plaisir à en parler. En parler, ce serait évidemment bien plus facile avec l'aide de l'alcool, comme la dernière fois que je vous ai vu.
And when I talk about remaking appearance,
peindre, eh bien, c'est refaire les apparences, recréer les apparences. Et comment parler des apparences ? On peut évidemment commencer par la tête, par le torse, par les membres, peu importe. Ce dont il est question, c'est comment faire un portrait sans en faire une description, sans faire une illustration du sujet. Et étant donné la perfection qu'a atteint de nos jours la photographie, refaire l'apparence sans
l'illustrer.
Il faut donc s'éloigner des apparences littérales, puis revenir aux apparences que l'on choisit, les apparences que l'on veut enregistrer.
La voix de Francis Bacon dans les entretiens de 1975 au micro de Michel Couturier. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, Franck Maubert, Yannick Hennel ? Qu'est-ce qu'on fait avec un si grand peintre qui dit « bon, ça ne sert à rien d'en parler » ?
Ah mais alors, il dit on pourrait en parler, mais il faudrait
être ivre.
Mais alors justement, en l'écoutant, je me disais mais ça doit être ça la littérature, c'est une parole ivre.
Ça pourrait,
je dis pas qu'il faut être ivre pour écrire de la littérature, mais je dis que le langage en état d'ivre, en état d'excès sur lui-même, ça serait peut-être ça la littérature. C'est vrai que se planter devant un tableau et essayer d'en faire, de communiquer comme ça, sobrement, ce qu'il en est, on reste devant, voilà, on reste collé ou éloigné. Mais en revanche, se mettre dans un état particulier de réceptivité, alors pour le coup un peu excessive, ivre, disons, comme Bacon, Moi, j'appelle ça la littérature. Je sais que je me mets dans des états très particuliers, enfin, d'ivresse du langage, enfin, pour essayer d'atteindre, pour être vaguement à la hauteur de ce sujet.
Parce que sinon, c'est une tentation qui serait celle du silence face à la peinture. C'est une vraie tentation ou c'est une posture dans la voix de Francis Bacon ? Lui qui est un grand lettré, on l'a dit au début de l'émission.
Je pense que c'était pour se débarrasser du sujet, je pense. Enfin, je lui ai posé la question.
Du sujet du commentaire de la peinture,
oui,
vous voulez dire.
Oui, c'est ça, le commentaire pur. En revanche, faire un travail comme celui de Yannick, par exemple, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, on parle pas vraiment de la peinture. On entre dans la peinture, en fait. On est même la peinture, si je veux dire. Et on fait œuvre avec. Donc, c'est autre chose. Enfin, je pense que c'est exactement ce que dit Bacon, de ne pas faire un portrait ressemblant.
Débarrasser des apparences, en même temps, il utilise ce mot assez intéressant, d'autant plus qu'on est à la radio, de enregistrer. Celle que nous avons décidé d'enregistrer. Il y a un côté très physique, je trouve, d'inscription physique.
Oui, enfin, enregistrer, c'est aussi choisir en même temps, mais c'est aussi s'en dégager. Enfin, c'est pour. À mon avis, c'est un merveilleux tremplin, la peinture, pour la littérature. Ça permet d'aller ailleurs, ça ouvre des chemins.
Comment vous avez résolu la question lorsque vous êtes embarqué dans l'idée d'écrire la vie de Francis Bacon pour ce roman graphique, Frank Maubert? Comment vous vous êtes dit, voilà, la peinture, le discours sur la peinture, aura telle ou telle place?
Oui, mais alors, justement, j'ai pas du tout fait une biographie. Hein. D'abord, il s'agit d'un roman graphique, comme vous l'avez dit. J'ai écrit deux petits livres sur Bacon, des conversations, et puis un autre petit livre où j'aborde des moments de vie avec lui, enfin des errances dans Londres, à Paris, etc., puis où les conversations téléphoniques, et puis un discours sur sa peinture malgré tout, mais bon, une tentative d'explication, mais ce sont des courts chapitres. Là, l'éditeur Antoine Caro voulait que ce soit une biographie, et en fait, bon, il m'a laissé faire ce que je voulais en définitive. Donc, et avec Stéphane Manel, l'illustrateur, on a pris des chemins un peu de traverse. Alors, il y a des éléments biographiques, bien sûr, pour.
Ça s'appelle quand même Éclat de vie, c'est-à-dire qu'il y a des pointes de sa vie, c'est important.
Oui, alors Éclat. J'ai trouvé le titre qui m'est apparu immédiatement, en fait, pour ce projet de livre, parce que je me souviens, quand j'étais toujours dans cette chambre atelier, il y avait un grand miroir carré plaqué au mur qui était complètement éclaté et concentrique comme ça, et je lui avais demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'avait dit, ben, j'étais avec un ami, je lui ai envoyé, j'étais pas content, j'étais un peu en colère, je lui ai envoyé le cendrier qui est là, à travers la figure, et ça atterrit dans le miroir. Et ça avait fait un très bel éclat. Et je me suis souvenu de ça qui était quasiment comme un tableau, en définitive. Et éclat de vie, le mot éclat ressemble précisément à Bacon, à sa peinture, à sa vie. Il y a à la fois des bribes, c'est des bribes de sa vie qu'il y a dedans, et des bribes de sa peinture, en fait. Donc, comme des éclats d'un miroir.
Oui, et puis ça renvoie aussi, et c'est aussi un livre qui procède par éclats, parce qu'il cite beaucoup, il y a beaucoup de citations, à la fois de Bacon, mais aussi d'une constellation de personnes qui aident à regarder Bacon, grâce à un miroir brisé comme ça, Frank Maubert. Ça renvoie aussi à ce qu'il disait de sa propre image. Je n'aime pas me regarder, j'aime pas voir mon visage, mais je continue de me peindre pour voir la mort à l'œuvre. Alors, comment on compose de cette manière-là? Comment vous avez travaillé, Frank Maubert? S'il s'agit non pas d'une entreprise biographique, mais d'un assemblage d'éclats de vie, alors comment ça s'écrit?
C'est comme un puzzle, en fait. J'ai assemblé des choses qui me sont venues au fur et à mesure. Je veux dire que j'ai écrit assez rapidement ce texte, mais parce que ça me venait assez relativement facilement, mais j'ai procédé comme ça par éclats, des choses qui me... J'avais l'impression d'écrire en compagnie de Bacon. J'avais l'impression de le retrouver, parce que j'avais hésité à faire un troisième livre sur Bacon. Et puis, en fait, j'avais l'impression, vraiment, j'ai passé beaucoup de plaisir, en fait, parce que j'avais l'impression d'être avec lui, enfin, ou qu'il était avec moi, enfin, je sais pas. Et donc, je l'entendais comme à chaque fois que j'entends sa voix, c'est un grand, grand plaisir, j'ai l'impression qu'il est là, quoi.
Au tout début du livre, vous racontez comment vous abandonnez un sac à dos ou une valise qui devait vous emmener en Grèce l'été pour foncer évidemment à Londres, car Monsieur Bacon vous attend à l'atelier.
J'attendais ce moment-là depuis 3 ans. J'envoyais tous les mois ou tous les 2 mois à Mrs. Beston, qui s'occupait de lui à la Marlborough Gallery, et donc à Londres et j'avais pas de réponse, ou alors on me disait non, Monsieur Bacon ne reçoit personne, etc. Puis un jour, pof, donc j'ai pas parti en Grèce, je suis allé à Londres passer 3 jours avec lui, qui était extraordinaire, je le dirais.
Vous dites que vous ne rencontrez pas du tout la personne réfractaire à discussion,
pas du tout.
Qu'on pouvait présenter, ni même l'espèce d'épouvante derrière elle-même.
J'avais un peu peur parce que je me suis dit, je rencontrais le monstre qu'on décrivait déjà à l'époque. C'était à l'époque le peintre vivant le plus cher, le plus. Il y avait la menace d'un monstre, enfin de quelqu'un qu'on décrivait comme étant épouvantable et difficile. Et moi j'étais très jeune, j'avais 20 et quelques, donc je suis arrivé comme ça un peu timide, et en plus je suis arrivé à Londres, j'avais pris un hôtel presque à côté de chez lui, mais involontairement en fait, et puis je me souviens, c'était un vendredi soir, et je l'avais appelé, et puis il m'avait dit, j'avais appelé le vendredi soir, et puis il m'avait dit très très gentiment, il m'avait dit, mais vous êtes où? Je lui ai dit, je suis à tel hôtel. Il m'avait dit, mais c'est à côté de chez moi. Il m'avait dit, venez demain matin, je me lève tôt. Je dis, moi aussi. Il m'a dit, venez à 7h, et je me suis pointé à 7h, et il m'a reçu, on a commencé par boire du café, et justement, à parler de des livres qui étaient là, et puis ça a commencé comme ça, puis après on a passé la journée ensemble, puis il m'a entraîné dans une journée totalement béconienne, qui était extravagante.
L'un et l'autre, on y reviendra tout à l'heure, mais vous défaites pas l'idée de la violence que vous conservez, Yannick Enel et Franck Maubert, mais l'idée de... je sais pas, quelque chose qui serait que noir ou qui serait que sombre ou qui serait que torturé, comme si c'est pas ça que vous voyez, ou pas que ça.
Mais je pense que la légende qui s'est fabriquée autour de Bacon comme un peintre nihiliste est très superficielle. Bon, il a entretenu lui-même cette légende, mais alors c'est un peintre. La peinture, disons, de Bacon est très violente, mais c'est une mise à nu de la violence. C'est pas Bacon lui-même qui est pour la violence. Il n'est pas non plus pour la cruauté. Il se trouve que sa peinture, comme celle du Caravage, disons, dans la grande tradition des peintures dites violentes, déshabille et met à nu ce qu'il en est de des abîmes, de l'être. Mais par ailleurs, moi, ce qui m'a frappé durant cette nuit-là, puisque j'ai passé 10 heures tout seul devant les tableaux, c'est l'infinie délicatesse, enfin la fraîcheur effervescente, enfin pas seulement des couleurs, mais des compositions, enfin de ces dunes qui, dans les dernières années de Bacon, occupent tout l'espace, et ce bleu, qui d'un coup ne cessait de m'inonder. Je pense que Bacon est un grand peintre dans la tradition de Turner, vous voyez. Quelqu'un qui... Alors, il y a ses corps disloqués, évidemment, mais il y a quelque chose d'autre qui ne cesse de ruisseler comme l'intensité elle-même. Voilà.
On va écouter la voix de Patrick. Il fait partie du Book Club auditeur-lecteur. Il a lu le roman graphique Franck Maubert, dont je rappelle que les dessins sont... vous sursautez à Turner ?
Oui.
C'est ça ? Mais c'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut oser ce genre de truc. Je rappelle que c'est Stéphane Manel qui fait les dessins de ce roman graphique. On écoute Patrick qui vous a lu.
Bonjour Franck Maubert et bonjour le Book Club. J'ai beaucoup, beaucoup aimé votre ouvrage Bacon, éclat d'une vie. Alors, plusieurs livres ont été publiés récemment sur Francis Bacon, des romans, des biographies, mais j'ai trouvé que le vôtre se démarquait justement de ce qui a pu être publié jusque-là, parce que l'objet lui-même est extrêmement réussi, très visuel, très beau, qui emprunte à la fois au roman graphique, à la biographie et au livre d'art. Et puis il y a comme quelque chose de l'ordre de la confidence. Alors, pas de la confidence indiscrète, mais plutôt de l'anecdote inédite. C'est vraiment ça qui fait la différence, c'est l'impression d'une proximité. J'en viens à ma question. Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose que vous aurez confié Francis Bacon, ou que vous auriez vécu avec lui, et dont vous n'auriez pas parlé dans votre livre? Voilà. Merci à vous et à très bientôt.
Merci Patrick pour votre lecture. Toujours plus de confidences, encore des confidences, encore des anecdotes. Vous disiez, Franck Maubert, tout ça procède, le récit, par éclat de vie. Donc c'est aussi des petites choses, mais qui sont à chaque fois révélatrices. Est-ce que, ça peut être ou bien que vous n'avez pas mis dans le livre, ou alors peut-être une qu'on pourrait sortir du livre, Franck Maubert ?
Non, il y a une anecdote qui n'est pas dans le livre, mais que je vais livrer tout de même, parce que ça n'avait pas sa place dans le livre. En fait, c'est parce que je voyais, dans le même temps où je voyais Bacon, je voyais Serge Gainsbourg beaucoup à Paris, et Gainsbourg était un grand fan de Bacon, et il me disait « parle-lui de moi », etc. Alors, je voudrais le voir, et tout ça. Alors, un jour, j'allais à Londres, je vais voir Bacon, et puis comme ça, incidemment, je lui dis, je lui parle de Gainsbourg, et au nom de Gainsbourg, il a levé les deux mains en croix, comme ça, il m'a dit, ah, non, surtout pas lui, surtout pas lui, et ça s'est arrêté là.
Pourquoi?
Je ne l'ai jamais su, parce que j'osais pas, tellement il était en furie, je me suis dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne saurais jamais. Et le problème, c'est que Gainsbourg, que j'ai vu quelques jours après, me dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, et tout, alors, je lui citer des phrases que m'avait dit Bacon, du genre « on naît, on meurt, si entre les deux on fait quelque chose, c'est mieux », etc., des choses comme ça, et qui n'étaient pas d'ailleurs des phrases de Bacon, mais c'était des phrases issues d'auteurs grecs, et plus ou moins adaptées, et après, Bacon à la radio, un jour j'écoutais la radio, il recitait, comme dit Bacon, et il me citait. C'était très drôle.
Enfin, est-ce qu'il avait l'art comme ça? Parce que je disais tout à l'heure, vous utilisez beaucoup la citation dans ce livre-là, Éclat de vie. Est-ce qu'il avait l'art de la formule?
Oui.
Vous racontez aussi combien est-ce qu'il s'amusait à rejouer presque certains passages des entretiens avec David Sylvester, pour faire signe, une sorte
c'est
de discours formé.
Ouais. C'est exactement ça. Alors d'une part, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que d'une part, il aimait jouer, se mettre en scène en fait d'une certaine manière et jouer avec les mots, et il avait appris sa leçon, la leçon avec Sylvester, enfin il récitait quasiment, mais je crois le dire pendant un moment, mais il répétait, il ressassait un peu tout ça.
Mais comme pour se moquer du langage, pour dire que tout ça c'est vain, ou il y a quand même de la profondeur dans ces phrases?
Non, il y a une profondeur, bien sûr, mais enfin c'est comme une leçon apprise par cœur, il en avait fait un mantra en quelque sorte, et qu'il développait avec des chemins de traverse de temps en temps, mais c'était quand même la base. Et moi j'étais un peu frustré parce que j'essayais de lui poser des questions
pour
sortir du discours, puis en fait il y revenait tout le temps avec les mêmes formules. Alors moi parfois j'étais très content, puis après je me rendais compte qu'il avait déjà dit des choses. Enfin voilà, j'étais un peu déçu, mais malgré tout, bon, c'est comme ça. Il le faisait avec tout le monde, enfin avec les quelques personnes qu'il rencontrait. J'en avais parlé avec Pépiat aussi, c'était pareil. Bon, c'est...
On entendait aussi, Patrick, notre auditeur, parler de la dimension intime, du rapport à la confidence, donc qui tient au fait que vous vous êtes rencontrés, que vous avez passé du temps ensemble, Franck Boba, oui. Mais il y a aussi quelque chose de son intimité qui transparaît dans certains éclats de vie que vous reportez dans ce roman graphique, notamment, et j'ai vu passer tout à l'heure dans la conversation le nom de Georges Dyer. Est-ce qu'on peut dire un mot de la place qu'a cet homme-là dans la vie de Francis Bacon, et peut-être du moment tragique, puisqu'on parlait de tragédie, auquel son suicide donne lieu?
Elle est capitale. Enfin, d'ailleurs, Yannick en parle dans son livre très bien. Il raconte toute l'histoire, enfin tout le fameux, je dis le fameux épisode, puisqu'on a l'impression toujours de ressasser aussi nous les mêmes choses. Mais Georges Dyer s'est suicidé. S'est suicidé à force de drogue et d'alcool dans l'hôtel où il était descendu pour l'exposition en 72, c'est ça, au Grand Palais, qui était un événement, puisqu'au Grand Palais il n'y avait eu que Picasso comme peintre vivant qui avait exposé. Et
comme un sommet de plus dans la carrière de
Bacon. Ah ben c'était fabuleux. Enfin, il avait déjà eu des sommets aux États-Unis, en Angleterre, dans son propre pays, tout ça. Mais pour lui, compter la France, c'était le climax maximum. Enfin, c'était ça. Seul compter la France, enfin, puisque c'était pour lui le pays des armes. Et quand Georges Dyer, donc, on a caché, comme le raconte aussi Yannick dans son livre, on a caché la mort pendant les deux jours, on a caché la mort de son compagnon dans son hôtel. D'ailleurs, il y a un truc qui m'échappe, parce que je réfléchis ça en lisant avant-hier le livre de Yannick, c'est que je me dis, mais en fait, pourquoi, comment on a fait, étant donné qu'ils étaient dans le même hôtel, cacher la mort de son compagnon pendant 2 jours? Alors là, je ne sais pas, Yannick, si vous avez une réponse à ça.
Je crois que Bacon a dormi dans une autre chambre. Mais,
oui, mais c'est étrange. Parce
on
que...
servait un cadavre, je ne sais pas comment on fait ça. Oui.
Mais ça veut dire qu'il le savait, c'est ça ma question.
Ah, Bacon, oui. Alors, je, pareil,
oui,
je ne comprenais pas au début.
Train bleu,
mais il le savait absolument. C'est-à-dire qu'il a vu le corps de Georges Dyer nu sur les toilettes, tel qu'il va le peindre c'est plus ça. Tard, et tel qu'il l'avait déjà peint.
Il l'avait déjà peint, c'est ça qui est incroyable. Mais parce qu'en fait, il l'a peint parce qu'il l'avait déjà vu dans cet état-là.
Ouais. Mais Bacon était au courant, les organisateurs étaient au courant, et ils ont pensé que si on révélait ça au public, enfin à tout le monde...
Oui, les journalistes allaient s'emparer de ça et ne parleraient que du fait divers et pas du tout de la peinture. Enfin,
Mais
vrai si nous on en parle par exemple là, c'est pas du tout, et bien des années après, pour faire quelque chose de, d'événementiel ou de,
non,
de criard, c'est pour dire que cette... personne a eu une place importante, y compris dans la peinture de Bacon.
C'est ça.
Mais je crois qu'il a été peint au moins 60 fois. George Weyer apparaît comme étant, je ne sais pas, Bacon avait un, comment dire, avait dans sa peinture un combat avec Michel-Ange, on pourrait dire ça comme ça, avec l'idéal masculin des corps, et il y a opposé ce corps merveilleux qu'il a disloqué, torturé, qui est celui de son amant, de son amoureux. Je pense qu'il a aimé énormément d'ailleurs. Enfin, ils ont vécu 8 ans ensemble. Bon, c'était ça avait l'air foutraque.
Et, oui, c'est et ça, parce que
c'était une relation très violente, compliquée.
Bah, vous dire que Bacon était quand même aimait le masochiste. Enfin, il était masochiste, en fait. Hein, c'était...
Il trouvait apparemment que George Dyer n'était pas assez dur. Enfin, il aurait aimé... Là, on entre dans des considérations un peu intimes, mais il attendait le voyou qui lui tape dessus, disons. Il avait projeté ça sur George Dyer. Toujours est-il que la mort de Dyer devient un événement pictural, un événement... qui va donner lieu à ce triptyque,
oui,
qui est pour moi l'un des plus beaux tableaux de l'histoire de l'art, carrément. Moi, je suis resté plus d'une heure devant,
ben oui,
dans la nuit, et c'est un tableau stupéfiant, enfin, où l'impossible même, c'est-à-dire l'instant de la mort, l'infigurable, est étrangement et magiquement, ou de manière sorcière, saisi. Et c'est pas... Même celles et ceux, j'en ai fait l'expérience, hein, même celles et ceux qui n'aiment pas Bacon et qui trouvent cette peinture beaucoup trop dérangeante, parce qu'elle l'est évidemment, devant ce tableau sont requis de manière malaisée, mais quand même estiment que s'y passe quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs.
On va aller dans votre nuit à vous, Yannick Hennel, cette nuit que vous passez au musée avec les œuvres d'art de Francis Bacon. Il était un peu plus de minuit quand j'ai ouvert les yeux. Tout était bleu et frais. Moi aussi j'étais frais. Aucune douleur, tête légère, un vrai miracle. J'ai pris appui sur les coudes et me suis relevé avec précaution. On ne sait jamais, un mouvement trop brusque et le crâne pourrait se déchirer à nouveau. J'ai repoussé la couverture et me suis assis au bord du lit de camp. La nuque était bien, les épaules aussi, les yeux impeccables. Pas de lourdeur dans les jambes. Voilà, j'étais de retour. Je me suis levé et du bleu m'a giclé au visage. Était-ce une fontaine ? Face à moi, un cube transparent se remplissait d'une eau très claire qui jaillissait d'un robinet. L'azur est irrésistible. Son effervescence vous réveille. En s'écoulant, l'eau prenait des teintes bleutées plus sombres où se mêlaient des tourbillons d'écume rose et blanc, et toute cette mousse débordait du cadre avec une volupté incontestable. On n'arrête pas le plaisir. Il coule tout seul. Ainsi va le monde liquide. J'ai réalisé que tout ce bleu avait veillé sur moi et que j'avais dormi juste en dessous d'un robinet qui coule. Pas étonnant que ma migraine ait disparu si vite. C'était carrément un flot qui avait baigné mes yeux. J'avais nagé pendant 2 heures dans un lac de peinture. Blue Bacon, c'est le titre de ce livre que vous faites paraître dans la collection Ma Nuit au musée aux éditions Stock, Yannick Hennel. Donc je voulais lire un des passages où il y a du bleu. Ici, c'est le moment où on va dire le bleu explose, un des premiers moments où le bleu explose. C'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas bien la peinture de Bacon, l'azur irrésistible pourrait paraître lointain. Or, c'est comme si le texte, votre texte, était comme aspergé de ça, aspergé de bleu. Était-ce une surprise pour vous aussi ?
Absolument. Les tableaux, dont celui-ci, celui du robinet et du jet d'eau, ces tableaux, je ne les avais jamais vus. C'est des tableaux qui, pour la plupart, relèvent des 20 dernières années de Bacon. Et il se trouve que non seulement ça a été une grande surprise esthétique, mais ça a été aussi d'un grand usage pour moi, parce que à peine arrivé dans cette exposition, à ma consternation totale, j'ai quasiment perdu la vue. J'étais sujet à l'époque à des migraines ophtalmiques. Était-ce les néons, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais très vite, en quelques minutes, j'ai perdu pied. Les migraines ophtalmiques, c'est très 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 violent, parce qu'on a les yeux qui sont cisaillés. Alors je me suis raconté que c'était sans doute Bacon lui-même qui, dans ses impacts, m'avait mis à bas tout de suite. Et je me disais aussi, pour me consoler, parce que je me suis dit, je vais quand même pas passer la nuit à dormir, à ne rien voir, enfin quel gâchis, j'avais attendu ça depuis tellement longtemps. Je me suis consolé en me disant, à la manière de Daniel Arras, de toute façon, on n'y voit rien. Il a écrit un livre comme ça sur la peinture. Et que peut-être fallait traverser ce fondu noir. Et je savais qu'il y avait un lit de camp qui avait été préparé pour moi. Et j'ai gagné ce lit de camp. Et voilà, en prenant quelques médicaments que j'avais sur moi, j'ai réussi à m'en sortir. Et ce lit de camp était déposé sous ce tableau sous lequel je me suis réveillé, qui est celui que vous venez de décrire, c'est-à-dire une pure source, sans corps, un au-delà des corps que je ne connaissais pas dans l'univers de Bacon, une espèce de jouvence, pas tout à fait heureuse, mais qui semble tout près de l'avalanche, on sent une catastrophe imminente, mais qui quand même m'a semblé me couler directement dans la bouche.
Ouais, hein. Et puis alors ça fait signe vers plein de choses, c'est-à-dire qu'à partir de cette jouvence, de cette fontaine, de ce robinet d'eau fraîche, vous allez dans un coin qui est l'enfance, vers la chambre africaine, vers des souvenirs de lumière, de son, mais aussi de naissance à l'émoi amoureux sexuel. Vous allez aussi tout droit vers la sexualité, c'est un autre jaillissement. La question de la volupté apparaît dans ce texte-là et elle est extrêmement présente dans votre texte.
De possession aussi.
Et de procession, et j'allais le dire, peut-être un des derniers endroits où nous emmène la source ou cette rivière, c'est la sorcellerie, c'est le rite initiatique, c'est la traversée de la nuit. Alors peut-être on prend les choses une par une, Yannick Henel, ou alors exactement en même temps, débrouillez-vous, comme vous voulez.
Je peux me permettre juste de dire une chose.
Allez-y.
C'est le jet d'eau, cette fameuse toile sur laquelle il a, enfin, pas dormi, ou en tout cas il s'est réveillé. C'était la toile préférée, la plus importante de Bacon.
Oui, il disait que c'était la plus accomplie.
Exactement,
quoi,
il disait qu'elle était immaculée.
Il l'avait dit, ça, en plus. Donc c'est...
Ouais. Ouais, c'est étonnant, parce que c'est précisément, comment dire, ça va à l'encontre du stéréotype
qu'on
s'invente,
Bacon,
qu'on se fabrique autour de Bacon. Ouais. Je sais pas par où commencer, mais effectivement,
c'est votre texte.
Effectivement, ce bleu qui parcourt son œuvre, finalement. Enfin, je suis pas un exégète, hein. Moi, j'essaye de vivre la peinture et de me rendre disponible, enfin, à des sensations pour écrire. Ce bleu, je l'ai vu aussi, alors là, pour le coup, très aigu, se localiser, enfin, et vibrer.
Dans un autre tableau.
Dans un autre tableau qui s'appelle Les Lutteurs, qui est un tableau plus ancien, qu'il a réalisé au début des années 50. C'est une scène d'étreinte sexuelle entre deux hommes. Ils sont quasiment dans une cage. Ça a l'air d'être les lutteurs d'après Muybridge, comme il faisait souvent. Ouais. En fait, c'est une pure scène de sexe. Et l'homme qui est en dessous, et qui regarde le spectateur en grimaçant de volupté ambiguë, c'est Bacon. Il faut s'imaginer quand même, au tout début des années 50, en Grande-Bretagne, un tableau cadré,
un acte d'amour homosexuel.
Pleine face, deux homosexuels faisant l'amour, dont l'un est le peintre. Et il se trouve que ce tableau est d'une délicatesse, enfin, il y a un délié comme chez le Titien ou le Caravage, plutôt le Titien d'ailleurs. L'homme au-dessus, la masse organique de l'homme qui est au-dessus de Bacon, dominant, je ne sais pas si c'est dominant, mais son dos, on dirait la crête d'une montagne, la crête enneigée d'une montagne. Il y a une délicatesse merveilleuse. Et surtout, l'endroit où se joignent les deux corps, leur emboîtement, il n'y a pas eu besoin d'illustrer, il n'y a pas eu besoin de montrer les deux sexes. Bacon, à la place, a fait gicler, c'est le cas de le dire, une matière à la fois azur, céruléenne, bleu roi, bleu marine. Il y a plein de bleus comme ça qui sont noués. Et j'ai pensé, c'est le bleu du sexe. Je me suis dit ça comme ça, je l'ai noté, c'est une expression un peu absurde qui m'a illuminé. Je me souviens que ça m'a fait plaisir, ça a éloigné la migraine. Et ce bleu du sexe m'est apparu après comme dans les reflets, parce que les toiles de Bacon sont toutes enfermées derrière des vitres, enfin ils nous coffrent. Quand on regarde un tableau de Bacon, ben on se voit nous-mêmes, on est emprisonné à l'intérieur parce qu'il y a un jeu de reflets. Et quand même, il y avait ces éclats, comme dit Franck Maubert, ces éclats bleus un peu partout qui se reflétaient, puisque les tableaux se faisaient face. Et je voyais du bleu partout, et c'était ce bleu de la volupté, un bleu très cinglant, hein, c'est pas un bleu apaisant, hein, c'est pas un bleu de 12 après-midi tranquille. Mais voilà.
Vous dites oui, c'est des éclats, des reflets, une façon d'être presque emprisonné dans la peinture de Bacon, Yannick Enel. Et une des images que vont convoquer, alors peut-être après celle d'une jeune fille et d'un baiser, d'une lumière douce dans la prime adolescence, c'est celle d'une cérémonie, ou plutôt d'un sorcier, oui. Dans un village en Afrique où vous allez avec vos parents et votre sœur. Et un tête-à-tête avec un sorcier à qui les initiales de votre prénom et de votre nom voilà, ne revient pas. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui coince. Et bizarrement, ou pas bizarrement, c'est cette scène qui revient très fort dans la nuit que vous passez devant la peinture de Bacon.
Et en fait, c'est le lit de camp. Être assigné au ras du sol, ça m'a rappelé d'un coup, ça aussi c'était pas prévu, j'étais quand même venu là pour voir de la peinture, et comme je n'y voyais rien, quelque chose d'autre s'est passé, d'un peu alchimique, de sorcier, parce que je pense que Bacon c'est un sorcier, la sorcellerie blanche, celle qui nous donne au lieu de nous prendre seulement. Et d'un coup, j'ai eu des réminiscences très très violentes de quelque chose que j'avais refoulé, qui est une scène... Mon père était militaire, et donc on a vécu comme ça pendant longtemps. Il s'engageait dans les armées africaines, enfin, et on était au Niger, j'avais 12 ans. Je me souviens que j'avais vu Apocalypse Now, où il s'agissait déjà d'une violence comme ça sacrificielle, et je dormais plus à cause de ce film. Et je me suis souvenu d'une scène étrange dans un village, effectivement, où un sorcier de village, dont la tête était entourée de serpents, enfin, il avait noué des serpents vivants autour de lui, avait entrepris une espèce de rite incompréhensible pour moi. Et il m'avait demandé d'écrire quelque chose avec du sang ou de la peinture rouge, je sais plus très bien, enfin, sur une feuille. J'avais pas très bien compris. J'avais tracé mes initiales. Et ça l'avait mis dans un état de colère folle. Et j'ai cru pendant longtemps qu'il m'avait jeté un sort. Et donc la peinture de Bacon nous jette des sorts. Et en fait, peut-être que je me suis trompé, tout simplement. Il tenait peut-être à me protéger, au contraire. C'est toute cette ambiguïté qui m'est revenue durant cette nuit. Est-ce que le grand art baconien nous lacère, nous jette un sort, nous maudit, ou est-ce qu'au contraire il ne demande qu'à nous aimer, à nous protéger? Mais voilà, c'est ce lieu indécidable.
En tout cas, vous dites que il faut en payer le prix, oui. Et que il y a toute une dimension sacrificielle. On a beaucoup parlé des tragédies grecques et de la présence du sang humain, du sang des bêtes, et de ce qu'il faut laisser pour aller vers un autre monde. Si vous deviez vous mettre le doigt sur ce que vous avez sacrifié, ce que vous avez perdu pour passer cette nuit, ou ce que vous avez laissé en passant cette nuit en compagnie de la peinture de Bacon, ce serait quoi, Yannick Enel?
Oh là là, j'ai payé le prix en termes d'angoisse. C'est-à-dire que je me suis pas satisfait d'une contemplation confortable. Je suis vraiment traversé une nuit qui est peut-être ma nuit à moi, enfin une nuit, mes propres démons, je les ai agités. C'est presque pas dissible, j'essaye de raconter ça. Hein. Bon,
c'est tout l'objet du texte.
C'est tout l'objet du texte, oui. J'essayais de décrire cette peinture, mais aussi de la considérer comme une offrande, voilà. Et c'est pas évident d'être en face, enfin Franck Maubert, on sait quelque chose, d'être en face comme ça d'une
Je pense que que Yannick Enel est rentré dans les tableaux et même a traversé l'étoile, en fait. Et tout à l'heure, on parlait, enfin, lors de cette nuit-là, et on parlait des verres, de la peinture qui est sous verre. Mmh. En fait, Bacon, un jour, m'avait dit que c'était, en fait, fait pour que, justement, que le regardeur participe à la toile, en fait, s'immisce. Dans la scène, en fait, on entre dans la toile.
Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas du tout échapper à soi quand on regarde ou quand on est en face de la peinture de Francis Bacon?
Ben, je pense que c'est un miroir, et c'est encore une fois peut-être un miroir brisé, avec des fragments comme ça. Je pense qu'elle est faite pour qu'on entre dedans et qu'on y participe d'une certaine manière. Et c'est toujours un reflet, enfin, quand on regarde une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, ou qu'on écoute une musique, etc. Je veux dire, ça renvoie à soi-même, ou qu'on lit un texte, on y projette quelque chose de soi. Enfin, c'est propre d'une œuvre d'art, d'être ouvert justement à celui qui regarde, qui lit ou qui écoute.
J'ai même la sensation que ça va encore même plus loin concernant Bacon. Mmh. C'est qu'il vient nous déloger de l'endroit plus ou moins tranquille où on croyait vivre. Il me semble que dans l'échange symbolique, l'échange presque musical qu'on a avec une toile de Bacon, il y a quelque chose d'une agitation qui peut être bénéfique. Enfin, faut avoir les nerfs. J'ai perdu mes nerfs, ça c'est sûr, mais j'en ai gagné d'autres face à Bacon. Enfin, j'ai essayé d'y survivre. Enfin, j'ai aimé que cette peinture me blesse profondément, mais j'ai eu confiance dans le fait qu'elle allait me cicatriser aussi.